Louanges et remerciements sont rendus au Seigneur. Quelle parole merveilleuse! Et ce qui est merveilleux dans la parole de Dieu, c'est que tout est vrai, c'est que tout passe, c'est que nous pouvons nous appuyer sur Dieu et sur la parole de Dieu. En tant que des hommes, nous donnons parfois une parole et nous ne pouvons pas la tenir. Nous devons nous corriger, mais Dieu n'a pas besoin de le faire. Il tient ce qu'il promet. Il demeure éternellement fidèle à sa parole. Il est écrit dans Ésaïe, au chapitre 40, que l'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu subsiste éternellement. Ésaïe 48. Et Pierre prend la même parole dans le Nouveau Testament et dit que l'évangile que nous prêchons est cette parole de Dieu qui demeure éternellement. Car toute chair est comme l'herbe, et toute la gloire de l'homme comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Et c'est cette parole dont la bonne nouvelle nous a été annoncée. 1 Pierre 1, verset 24-25. Quand on entend cela et qu'on le reçoit en soi dans la foi, quelle assurance, quelle confiance, quelle absolue. Frère Branham a d'ailleurs prêché sur le titre « L'absolu ». Et on m'a reproché ou bien on me fait objection au fait que je ne donne pas de titre aux prédications comme Frère Branham le faisait. Et je veux aussi vous dire pourquoi je ne peux tout simplement pas m'en tenir à un thème. Comme cela vient, c'est ainsi que je le transmets selon la parole des Écritures qui dit « Ce que j'ai reçu du Seigneur, je vous le donne ». Si je voulais donner un titre à une prédication, je ne saurais pas ce qui devait ensuite venir de la prédication. Voyez-vous, les hommes de Dieu ne sont pas là pour que l'un copie l'autre. Ils sont là pour que chacun accomplisse la mission qui lui a été donnée et accordée par le Seigneur et pas autrement. J'ai entendu un jour Frère Branham dire, lorsque Billy Graham était à Louisville, pour un petit déjeuner avec tous les prédicateurs, Frère Branham a dit, je ne peux pas prendre la place de Billy Graham. Et ensuite, il a dit, je doute qu'il puisse prendre ma place. Et vous savez, Frère Branham avait toujours un certain sens de l'humour. Et dans un sens très, très large, cela s'applique aussi à moi. Je ne sais pas si Frère Branham se serait aussi bien retrouvé et aurait aussi bien connu tous les pays du monde, que ce soit le cas pour moi le moindre. Il avait sa mission et j'ai la mienne. La parole qui nous a été lue est si précieuse et je voudrais au moins encore lire le premier verset du psaume 125 ou plutôt encore les deux premiers. Psaume 125. Ceux qui se confient dans le Seigneur. Ça, c'est la condition. Ceux qui se confient dans le Seigneur. Ceux qui se confient dans le Seigneur sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point. Elle est affermie pour toujours. Si nous, en tant que croyants, nous avons placé notre confiance dans le Seigneur, alors nous demeurons fermes dans toutes les tempêtes. Personne n'a jamais entendu dire que la montagne de Sion a été déplacée d'ici ou là, par une tempête. elle demeure ferme pour l'éternité. Et un homme qui a reçu la révélation de Jésus-Christ et qui est fondé dans la parole de Dieu et qui a placé sa confiance dans le Seigneur, pas en lui-même, pas dans une doctrine, pas dans une assemblée ou un prophète ou un homme de Dieu, mais dans le Seigneur. Celui-là est semblable à la montagne de Sion, qui ne chancelle point, qui est affermi pour toujours. Vous pouvez dire, ça c'est une grande portion, que nous puissions, nous, en tant que des croyants, demeurer aussi fermes que le roc, demeurer inébranlables dans le Seigneur et rester debout. Oui, c'est ainsi que le dit la parole de Dieu, et c'est ainsi que cela est. Nous ne sommes pas ballottés par-ci et par-là, par les différentes doctrines, parce que nous avons été solidement fondés dans la parole de Dieu. Et c'est pourquoi la fermeté ou la stabilité n'est ni en toi, ni en moi. Elle est dans le Seigneur. Et lorsqu'il est en nous, alors nous demeurons fermes avec lui, avec le rocher qui ne chancelle pas, mais qui demeure debout. Et puis vient le verset 2, Psaume 125. Les montagnes entourent Jérusalem. Ainsi, le Seigneur entoure son peuple dès maintenant et à jamais. Psaume 125, verset 2. Pas seulement quelques jours, mais dès maintenant et à jamais. Et celui qui est déjà allé en Israël sait que Jérusalem est entourée de montagnes. C'est ainsi que le Seigneur entoure son peuple dès maintenant et à jamais. Le troisième verset également du Psaume 125 me touche. Verset 3. Car le sceptre de la méchanceté ne restera pas sur le lot des justes. Oui, qu'est-ce que le sceptre de la méchanceté à avoir avec le lot des justes? Et pourtant, Revoanam dit dans une prédication que nous vivons en dessous du niveau que Dieu nous a donné. L'Église n'est pas encore là où elle devrait être, là où elle doit être. Que le Seigneur puisse brandir son sceptre et qu'il brise tous ceux qui est sceptre de méchanceté, afin que ce ne soient pas les circonstances qui règnent sur nous, mais le Seigneur sur l'épaule duquel repose la domination, le Seigneur qui tient le sceptre dans sa main. Celui qui a le sceptre possède le règne, il est roi. C'est lui qui décide. Notre Seigneur est notre roi. Il a le sceptre. Et il est écrit, le sceptre ne s'éloignera point de Juda jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Et il est venu, et le sceptre repose sur son épaule. Il y aurait beaucoup à dire dessus, mais lisons quelques passages bibliques pour une courte méditation de la parole. Nous vivons, en effet, dans des jours où tout doit arriver à son terme, où tout arrivera, où tout doit arriver, parce que Dieu l'a dit ainsi dans sa parole. Même si nous sommes parfois assaillis par la pensée que les choses se prolongent et tardent, nous pouvons néanmoins être certains que Dieu veille sur sa parole afin de la faire s'accomplir au temps convenable. Et là, Nous n'avons pas besoin de nous presser, mais nous avons besoin de patience afin de laisser le Seigneur agir. Dans la parole d'introduction, nous avons lu « Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu du Seigneur. » Jonas 2, verset 8. Vers qui devrions-nous nous tourner? Vers qui devons-nous aller? Lui seul a les paroles de la vie éternelle. Et pas seulement cela. Il a aussi le ton juste au bon moment. Il a la consolation pour tout ce qui peut nous inquiéter. Il l'a pour nous. Nous ne pouvons pas attendre quelque chose des hommes. De lui, nous pouvons l'avoir. Et on prend le verset 8 de Jonas. Ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton Saint-Temple. Jonas 2, verset 8, dernière partie. Comme il est merveilleux de savoir que Dieu vit, qu'il exauce les prières, peut-être pas toujours aussi rapidement que nous le souhaiterions. Moi aussi, je porte un sujet de prière en moi. Et je sais, le Seigneur exauce la prière. Et lorsqu'on attend, on verra l'accomplissement. Au verset 9, nous avons lu Jonas 2, verset 9. Ceux qui s'attachent à des vaines idoles éloignent d'eux la miséricorde. Personne ne le sait mieux que les croyants. Que notre salut se trouve uniquement auprès de Dieu, qui nous a donné le salut en Christ. Et puis vient le verset 10, nous sommes dans Jonas 2. Verset 10, Jonas 2. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai fait, le salut vient du Seigneur. Personne dans tout l'Ancien Testament n'a ressenti la perdition et le fait d'être sauvé dans son corps, dans son esprit et dans son âme, comme Jonas. Avons-nous compris cela? Lorsqu'il est question ici du salut, nous devons également prendre en considération le contexte. Jonas a été jeté par-dessus bord et il était enfoncé dans l'eau. Le poisson l'a emporté dans les profondeurs des eaux, là où se trouve le fond, sans espoir, sans rien. Il est descendu. Et il ne pouvait pas aller plus bas. Et là, il a crié au Seigneur. Et Dieu l'a exaucé. Il était perdu. Il était livré à lui-même. Mais le salut est venu. Puis la miséricorde de Dieu est venue. Puis la délivrance est venue. Il en est ainsi de tout homme. Il est séparé de Dieu, perdu, né dans ce monde. Son chemin ne mène pas immédiatement vers le haut. Le chemin mène vers le bas, parce que c'est le chemin large qui mène à la perdition. Mais alors, nous pouvons témoigner que le salut est venu. Le salut est venu du Seigneur. Et je l'ai dit récemment quelque part. Celui qui n'a pas connu dans son âme la douleur totale, la douleur d'être séparé de Dieu, la douleur d'être perdu, la douleur de la condamnation divine dans son âme, et qui ne peut réellement pas témoigner par expérience que j'étais perdu. Mais Dieu a eu pitié de moi et m'a accepté. Si quelqu'un accepte juste une doctrine
sans passer par ce processus réel, d'avoir été vraiment perdu, séparé de Dieu, sous le verdict de condamnation, comme il est écrit, car le salaire du péché, c'est la mort. Romains 5, 12, Romains 6, 23, c'est pourquoi, car par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et le péché, et par le péché, la mort. Il s'agit de ceci. Du moins, c'est ce qui m'importe. Que je n'ai pas seulement accompli correctement devant Dieu la prédication sur le plan doctrinal. Il faut aussi attirer l'attention sur le fait que chacun doit faire personnellement l'expérience du salut avec Dieu. Et c'est ce que je souhaite à tous de tout mon cœur. Et alors vient aussi la communion, la connexion avec Dieu et la connexion avec la parole de Dieu. En ce qui concerne les événements actuels, nous savons que le point central jusqu'à la fin demeurera Israël. On peut tourner et retourner les choses comme on veut. Beaucoup de choses peuvent se produire sur toute la terre. Les volcans peuvent entrer en éruption, il peut y avoir des tremblements de terre, des inondations, des guerres, des famines, des temps chers, comme les Saintes Écritures l'annoncent, tout cela arrivera et arrive même déjà. Mais ce qui reste à l'ordre du jour, c'est Israël. Si un volcan entre en éruption ici ou là, cela arrive à un moment donné et quelque part. Mais avec Israël, cela demeure toujours au même endroit. Et cela concerne toujours le peuple de Dieu. Je voudrais en fait, pour notre soulagement à tous, lire deux ou trois passages bibliques qui montrent que le Seigneur prendra lui-même la chose d'Israël en main et changera la donne. À la fin, ce ne seront pas Sharon, Shamir ou tout ce dont on parle, ni Hitzak, mais ce sera tout à la fin le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, qui prendra la cause de son peuple entre ses mains. Et alors, ce ne sera pas une conférence au Caire ou à Damas ou quelque part ailleurs. C'est Dieu qui agira lui-même et tous les autres devront s'incliner devant cela. Dans Amos au chapitre 9, Amos chapitre 9, ici je voudrais lire le verset 11. Amos chapitre 9, verset 11. En ce temps-là, je relèverai de la chute la maison de David et j'en réparerai les brèches. J'en redresserai les ruines et je la rétablirai comme elle était autrefois. Et puis directement, du même chapitre, versets 13 et 14, Amos 9, verset 13, « Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où le laboureur suivra de près le moissonneur, et celui qui foule le raisin, celui qui répand la semence ou le mou, ruissellera des montagnes et coulera de toutes les collines. » Verset 14. Alors je ramènerai les captifs de mon peuple Israël, ou je changerai le sort de mon peuple Israël. C'est ainsi dit le Seigneur dans sa parole. Verset 14. alors je changerai le sort de mon peuple Israël. Ils rebâtiront les villes dévastées et les habiteront. Pour moi, il s'agit de la pensée que le temps où Dieu agira arrivera, aussi bien avec l'Église qu'avec Israël. Nous pouvons, tout comme les dirigeants et les responsables en Israël, nous pouvons faire ce qui doit être fait entre-temps. Mais ensuite, nous voyons nos limites. Mais Dieu fera ce qui doit être fait en dernier lieu dans l'Église et en Israël. Ici, il est dit au verset 11, « En ce jour-là, je relèverai de la chute la maison de David. » À ce sujet, je voudrais lire la parole d'Actes des Apôtres, chapitre 15, où ce passage est cité dans le Nouveau Testament. À cette époque déjà, il y avait des hommes de Dieu qui pouvaient dire ce qui allait arriver. Actes des Apôtres, chapitre 15, particulièrement le verset 18. Mais pour le contexte, permettez-moi de lire à partir du verset 13. Actes des Apôtres, chapitre 15, à partir du verset 13. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit, « Homme frère, écoutez-moi. » Verset 14. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir au milieu d'elles un peuple qui porte son nom. Verset 15. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes. Amen. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes. Selon qu'il est écrit, après cela, je reviendrai et je relèverai de la chute la tente de David. J'en reparerai les ruines et je les redresserai. Verset 17. Afin que le reste des hommes cherchent le Seigneur, afin que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur, qui fait toutes ces choses, et à qui elles sont connues de toute éternité. Quelle parole merveilleuse! Et après près de 2000 ans, Jacques a prononcé ces paroles sur l'ordre du Seigneur et a confirmé ce qui a été annoncé depuis l'éternité. J'aime aussi beaucoup le « Ainsi dit le Seigneur » au verset 17. Afin que les hommes d'entre les nations qui restent cherchent le Seigneur. Quand est-ce qu'ils vont le chercher? Lorsqu'il relèvera la tente de David qui était tombée. Je pourrais lire encore un certain nombre de passages bibliques à ce sujet. Je reprends le verset 17. « Afin que les hommes d'entre les nations qui restent cherchent le Seigneur, afin que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur, qui fait toutes ces choses. » Ce n'est pas seulement le « Ainsi dit le Seigneur », mais le Seigneur s'est lui-même engagé vis-à-vis de sa parole. Il a prononcé, il a promis, c'est lui qui accomplit toutes ces choses comme elles ont été annoncées depuis l'éternité. Combien de fois l'avons-nous déjà dit? Dieu ne planifie pas aujourd'hui. Avant que le temps ne commence, Depuis l'éternité, il a intégré tout le déroulement temporel dans son programme. Et selon son conseil éternel et immuable, tout se déroule jusqu'à ce que le temps débouche de nouveau dans l'éternité. D'autres passages bibliques, particulièrement dans le prophète Agée, confirment de quelle manière Dieu lui-même, à cette époque qui arrive, ne parlera pas seulement, mais il agira. Je lis ces passages très brièvement. Agée, chapitre 2, verset 6. Agée 2, verset 6. Car ainsi parle le Seigneur des armées. Encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. Verset 7. J'ébranlerai toutes les nations.
Et
ça me réjouit. Ce ne sont pas des dirigeants ou des souverains terrestres qui vont le faire, mais c'est le Seigneur lui-même qui le fera. Toujours dans Agée, chapitre 2, au verset 21, Agée 2, 21, parle à Zérobabel, gouverneur de Juda, et dit, j'ébranlerai le ciel et la terre. Verset 22, je renverserai le trône des royaumes, je détruirai la force des royaumes des nations, et ainsi de suite. Ça me réjouit, et je crois que ça nous réjouit tous. Et je crois que cela nous réjouit tous. Ça nous réjouit de voir que Dieu est aux commandes, qu'il est sur le trône. Même lorsqu'on dit parfois qu'il ne se fait ni entendre ni voir. Jésus a dit à l'époque, encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez. Jean 14, verset 19. Le monde ne le voit plus. Après la résurrection, aucun incroyant n'a vu le Seigneur. Avant la résurrection, les gens pouvaient dire, n'habite-t-il pas ici, et ses sœurs et ses frères aussi, et ainsi de suite? Mais après la résurrection, aucun incroyant n'a vu le Seigneur. Uniquement les croyants. Et si vous pensez que Thomas était incroyant ou incrédule, je pense qu'il voulait simplement avoir la certitude. Il ne faut pas qu'il soit compté parmi les incroyants ou les incrédules. Tout au plus, il doit être compté parmi les croyants qui ont des difficultés à croire le surnaturel au moment même où cela se produit. Et il en est ainsi jusqu'aujourd'hui. Le monde ne voit pas le Seigneur. Il ne l'entend pas. Il n'a aucune perception des choses spirituelles. Non seulement certains l'ont vu directement après sa résurrection, comme Marie, comme Pierre et Jean, ainsi que quelques-uns sur le chemin d'Emmaüs. Et il est écrit ensuite dans 1 Corinthiens 15 que plus de 500 frères l'ont vu tout d'un au même moment. 1 Corinthiens 15, verset 6. Mais après sa résurrection, il ne s'est révélé qu'aux siens. Bien-aimé, cela est encore valable aujourd'hui. Le monde incroyant ou incrédule peut témoigner, nous n'avons rien vu ni rien entendu de la part de Dieu. Mais les croyants peuvent dire, nous avons vu le Seigneur marcher au milieu des sept chandeliers. Nous l'avons entendu. Nous pouvons témoigner. Il s'est révélé à nous. Le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez. Jean 14, verset 19. Et pour cela, il est nécessaire que nous appartenions au peuple de l'Alliance, que nous soyons donc devenus les enfants de du Nouveau Testament, de la Nouvelle Alliance, dans le cœur desquels Dieu a pu déposer sa parole. Je vais lire à cela la promesse de Jérémie 31, verset 31, et puis je lirai dans Hébreux chapitre 8. Jérémie chapitre 31, verset 1. Jérémie 31, verset 31, pardon. Jérémie 31, verset 31. Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda une nouvelle alliance. Vous savez, j'ai demandé à frère Goldner si ces paroles du prophète Jérémie s'étaient accomplies ou non. Si Dieu avait conclu cette nouvelle alliance qu'il avait promise dans l'Ancien Testament ou non. Nous croyons ce que notre Seigneur a dit dans Matthieu chapitre 26, verset 28. Matthieu 26, 28, « Car ceci est mon alliance, ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Il a inauguré la première alliance, il a également donné par grâce la seconde, la nouvelle alliance. » Dans Hébreux chapitre 8, lisons au verset 10. Hébreux 8, verset 10. « Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit. Je les écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Quelle parole merveilleuse. Pas ceux qui sont à l'extérieur, pas les incrédules qui ne reçoivent pas la parole et qui rejettent le Seigneur en tant que rédempteur, en tant que sauveur, mais plutôt ceux qui croient. Je me réjouis qu'aujourd'hui encore cette parole soit vraie. Le monde ne me voit plus, mais vous, vous me verrez. Soyez donc un peu honnête. Il y a un compositeur de cantique qui chante « Quand je te contemple dans ta parole ». Qu'est-ce que cela signifie? Nous voyons Dieu, nous l'entendons, nous sommes reliés à lui par son esprit. Nous avons reçu la vie de Dieu et nous avons reçu son esprit, comme Paul l'écrit aux Corinthiens, afin de reconnaître par cela et au moyen de cela ce qui nous a été donné par grâce de la part de Dieu. Je me réjouis de ce que c'est Dieu qui opère tout en tous, que c'est Dieu qui tient et accomplit sa parole envers l'Église et envers Israël, que c'est Dieu qui se lèvera et qui mènera sa propre œuvre à son terme. Pour certaines raisons et dans certaines circonstances, j'ai réfléchi ces derniers jours à ce que nous, en tant que croyants bibliques, nous avons personnellement retiré pour nous-mêmes. Nous avons retiré de la révélation divine de la parole, de la parole révélée, ce que nous avons retiré et dans quelle mesure nous nous sommes laissés intégrer dans l'œuvre divine du salut par la foi et par l'obéissance. Nous avons retiré tout ce qui était personnel de nous et nous nous sommes laissés intégrer dans l'œuvre divine du salut par la foi et par l'obéissance. Nous connaissons tous par cœur cette parole d'Actes des Apôtres, verset 21. selon laquelle le Seigneur Jésus restera ou demeure au ciel jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé par la bouche de ses saints prophètes. Et nous arrivons très clairement à la question, avons-nous seulement pris connaissance de ce message divin sur le plan doctrinal? L'avons-nous entendu et laissé passer à côté de nous, à gauche et à droite, en pensant à ce qui devait arriver aux autres? Ou alors, nous sommes-nous personnellement laissés intégrer dans l'ordre divin? Et je pense particulièrement à certains passages bibliques dans l'Épître aux Timothée que Paul a écrit en rapport avec le temps de la fin, concernant tout ce qui existerait parmi le peuple. L'orgueil, vous pouvez lire toute la liste, les relations entre les parents et les enfants et ainsi de suite. Et je suis arrivé à cette conclusion. Peu importe ce qui peut arriver dans ce monde, parmi les incroyants, chez les croyants, l'ordre divin devra être rétabli. Dans la maison, dans la famille, dans le mariage, chez les parents, chez les enfants, chez les femmes, chez les hommes, en toutes choses et pour tout, à la gloire de Dieu. Avons-nous compris cela? Nous pouvons très rapidement dire de manière extérieure que Dieu va tout restituer, tout remettre ou tout rétablir, replacer toutes choses dans son ordre. Et nous ne pensons pas à nous-mêmes, au fait que nous devons, nous aussi, trouver notre place afin que l'ordre divin soit également rétabli chez nous, pour nous. Avons-nous compris cela? Il ne s'agit pas seulement de penser que Dieu va maintenant faire tout cela et qu'ensuite viendra finalement une grande chose que nous attendons tous. Mais cet ordre divin doit commencer en nous. Il s'agit de l'achèvement de l'Église épouse. Lorsqu'il est dit que Jésus demeure au ciel jusqu'au temps de rétablissement de toutes choses, alors cela ne peut signifier que le jour de l'enlèvement et rien d'autre. Et puisque nous attendons tous l'enlèvement, nous devons comprendre que cet ordre divin doit réellement être partout, dans les cœurs et dans les maisons. Et si vous, mes bien-aimées sœurs, il vous est parfois demandé, comme cela peut sembler au premier abord, s'il vous est demandé un peu plus qu'aux frères, alors cela a sa raison d'être. Celui qui connaît les Saintes Écritures sait également où se trouve le manque. Et ce n'est pas pour nous les hommes une excuse, mais souvenez-vous de ce que frère Branham a vu en 1933. Ce n'étaient pas les hommes, c'étaient les femmes qui devaient quitter leur place. C'étaient les femmes qui ne se laissaient rien dire et qui ne pensent pas, se souviennent pas de cette prédication de frère Branham dans laquelle il parle de l'exemple d'une sœur pentecôtiste qui était tellement dans l'esprit qu'elle avait porté des chaussures avec de tels talons, faire ce qu'elle voulait et agir comme elle voulait. Et frère Branham dit, « Sœur, tu ne peux pas marcher ainsi sur le chemin étroit. » Et sa réponse fut, « Je vais te prouver que je peux marcher ainsi. » Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle a glissé, elle est tombée dans l'abîme avec un grand cri. Qu'est-ce que cela signifie?
Permettez-moi de le dire très clairement. Il y a aussi dans les maisons des croyants suffisamment de familles où il n'y a plus d'ordre divin. Et si maintenant je parais un peu démodé, alors pardonnez-le-moi. Mais il y a encore 15, 20 ou 30 ans, toutes les filles restaient à la maison jusqu'à leur mariage. Elles se sentaient chez elles et bien dans leur famille. Car, que s'est-il passé au cours des dernières années? Chacun veut être indépendant. Chacun veut. Et où est l'ordre divin? Où est ce qui, pendant 6000 ans, était valable? Ce qui allait de soi et concernait aussi bien les croyants que les non-croyants? L'esprit du temps n'a pas seulement entraîné les incrédules ou les incroyants, il a aussi entraîné les croyants. Pouvez-vous comprendre ça? L'esprit du temps a aussi entraîné les croyants. Et partout, il y a des plaintes, des soupirs dans les cœurs. Extérieurement, on peut lire la Bible. On peut prier. On peut penser être en règle avec Dieu. Mais on n'est en règle avec Dieu que lorsqu'on s'est conformé à l'ordre divin. Pas avant et pas après, mais uniquement lorsqu'on s'est conformé à l'ordre divin. Alors, heureux tous ceux qui ont réellement goûté et savouré la coupe du salut et qui ont goûté que le Seigneur est bon et qui se dépouillent de cet esprit du monde, car ils ne s'accordent pas avec le Saint-Esprit. L'ordre divin se trouve ici dans la parole de Dieu et il y aurait beaucoup à dire à ce sujet. Comme je l'ai déjà mentionné, jusqu'à il y a quelques années encore, tout se déroulait comme depuis les jours d'Adam. Mais ces dernières années, tout a tellement changé. Je pense encore aujourd'hui au jour où, pardonnez-moi, au jour où, vous pouvez aussi un peu sourire, même dans une prédication sérieuse. Je pense encore au jour où j'ai vu pour la première fois une femme avec des lèvres rouges. Pour moi, ce fut un tel choc. Je suis rentré à la maison et je ne savais même plus. Bien sûr, cela remonte à de nombreuses années. C'était la fin des années 40, peut-être 49. Mais que s'est-il passé depuis? Le monde féminin et les créateurs de mode ne savent plus quoi inventer pour faire la volonté du diable. Et selon ce qui apparaît, quoi que ce soit, et je pense aussi à une chère sœur, oui, Frère Branham avait dit dans une prédication, comme il le faisait toujours, moi, je le fais très rarement, mais lui, il le faisait très souvent parce que l'Esprit de Dieu l'y poussait. Il ne pouvait pas laisser les femmes passer ainsi, parce que Dieu ne les laissait pas passer ainsi. Et en tant que prophète de Dieu, il n'avait pas de choix. Il devait dire la vérité telle qu'elle, sans mettre de gants. Et donc, dans cette prédication, il avait mentionné que c'était une honte lorsque des femmes se font bronzer dehors en short, non pas derrière dans la cour ou dans le jardin de leur maison, mais dehors et que les hommes passent alors devant et les voient ainsi. Et après cette prédication puissante, une chère sœur vient et dit, « Frère Branham, je suis tellement heureuse que ce que tu as dit ne me concerne pas. Je ne porte pas de courts pantalons. Je porte uniquement des pantalons longs et moulants. » Et Frère Branham lui dit, « C'est encore pire. » Et cette dame fut naturellement extrêmement déçue. Et elle pensait, oui, qu'elle n'était pas reprise avec ses paroles. Et voilà que cela ne marchait pas ainsi. Pourquoi faut-il que je dise ces choses aujourd'hui?
probablement parce que nous tous, hommes et femmes, frères et sœurs, enfants, pères et mères, que nous comprenions tous que lorsque la Bible dit, sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, cupides, farfarons et ainsi de suite. Vous pouvez lire tout le registre dans 1 Timothée 3, dans 2 Timothée 4, vous pouvez la retrouver également partout dans les épîtres de Pierre. Mais voici la question, à qui cette liste s'applique-t-elle? Au véritable croyant, à cette troupe rachetée par le sang, qui s'est identifiée avec la parole de Dieu? Ou est-ce que la description du caractère dans lequel le monde se trouvera au temps de la fin? Et nous devons simplement dire que Dieu fait une différence entre les croyants et les non-croyants, entre celui qui le sert et celui qui ne le sert pas. Si donc toute la liste nous est donnée, comme nous l'avons lu là, cela ne peut tout de même pas être l'état de l'Église, n'est-ce pas? Je vous en prie. Est-ce que cela peut être le cas? Je vais simplement vous le lire afin que vous sachiez, vous aussi, que c'est bien écrit ainsi. Et alors, vous devez simplement donner raison à Dieu et ne pas penser que c'est là l'état dans lequel l'Église se trouve. Il est dit ici dans 1 Timothée chapitre 4, 1 Timothée chapitre 4, verset 1, « Mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, 1 Timothée 4, verset 1, l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines des démons. » Et ainsi de suite, la chose continue. Mais la liste détaillée se trouve ici dans 2 Timothée chapitre 3. 2 Timothée chapitre 3, à partir du verset 1. 2 Timothée 3, verset 1. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Verset 2, car les hommes seront égoïstes, cupides, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux. Verset 3, insensibles, jaloux, calomniateurs, intempérants. Est-ce là l'état de l'Église? Non, et encore non. C'est l'état des hommes, maintenant, dans le temps de la fin. Mais l'état de l'Église, je vous en prie, devant Dieu, il doit être complètement différent. Si toutes ces listes s'appliquaient à l'Église de Dieu, alors qu'est-ce que serait l'Église de Dieu? Elle ne serait alors plus du tout l'Église de Dieu. Non. Il est dit ici très clairement, alors les hommes seront. Il n'est pas dit que les croyants, il n'est pas dit que ceux qui sont sanctifiés et bien-aimés en Christ, mais ce sont les hommes de ce monde qui auront la manifestation de ce caractère, mais pas les croyants. Les croyants se laisseront arracher à ce monde. Et le Seigneur dit, il a dit dans Jean 17, 16, ils ne sont pas de ce monde, ou bien vous n'êtes pas de ce monde, comme moi je ne suis pas de ce monde. Et il dit aussi dans Jean 15, 18, si le monde vous haït, sachez qu'il m'a haï avant vous. Les croyants n'appartiennent pas à ce monde, et encore moins le monde ne leur appartient pas. Et voici le point. Beaucoup sont sortis du monde, mais ils ne se sont pas laissés retirer le monde. Donc, ils n'ont pas laissé retirer le monde d'eux-mêmes. Ils continuent à être dirigés par l'esprit du temps. Dans Colossiens chapitre 3, l'apôtre a réellement mis les choses au point. Il les a énumérées les unes après les autres. Colossiens chapitre 3, à partir du verset 18. Colossiens 3, verset 18. Femmes, soyez soumises à vos maris comme il convient dans le Seigneur. Comprenez-vous de quoi il s'agit? Et ensuite, verset 19. Vos maris, aimez vos femmes et ne vous aigrissez ou ne vous fâchez pas contre elles. Ici, chacun est interpellé, chacun. Et ensuite, verset 20, Vous, enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Oui, si aujourd'hui quelqu'un dit quelque chose à un enfant, disons ainsi, un enfant qui a grandi, alors qu'est-ce qui se passe alors? Alors on répond, tu es démodé, tu n'as pas suivi le temps. Encore une question, est-ce que nous suivons le temps? Ou alors est-ce que nous nous laissons mettre en conformité avec la parole de Dieu? Eh bien aimé, le jugement va commencer dans la maison de Dieu. Le rétablissement, la restauration, l'ordre divin et la révélation de la puissance de Dieu doivent, oui, et seront effectivement rendus manifestes dans l'Église et par l'Église. Et c'est pourquoi il est tout simplement nécessaire que cet ordre établi dans la parole de Dieu pour les croyants soit reconnu par nous tous, par grâce, pour que nous donnions à Dieu la possibilité de façonner notre vie en tant qu'homme, en tant que femme, en tant que père, en tant que mère, en tant qu'enfant, quoi que nous soyons, afin que nous nous laissions intégrer dans cet ordre divin. Et c'est seulement lorsque nous aurons compris cet ABC, comme frère Branham l'appelait parfois, ce n'est qu'alors qu'il sera possible de voir aussi les choses suivantes et de les expérimenter avec Dieu. Avons-nous bien compris cela? Dieu nous veut réellement du bien. Il ne veut pas nous laisser passer tel que nous sommes. Et je le dis encore une fois au nom du Seigneur, conformément à la parole de Dieu. La description du temps de la fin qui décrit l'apostasie loin de Dieu, l'éloignement de l'humanité vis-à-vis de Dieu, c'est une chose. Et l'Église appelée à sortir, séparée, purifiée, sanctifiée, et une assemblée, une église composée de nombreux membres introduits dans la volonté de Dieu qui ne nous est pas seulement promise dans la parole de Dieu, mais qui nous est clairement et distinctement présentée devant nos yeux. Pouvons-nous dire amen à cela? C'est ainsi que nous distinguons réellement ce qui appartient à ce monde et ce qui appartient au royaume de Dieu. Dans le monde, les choses du monde suivent leur cours, mais dans le royaume de Dieu, c'est ce que Dieu a établi pour le royaume de Dieu qui est valable. Puisque nous sommes sur ce thème, il y aurait encore deux ou trois passages à lire. Je vais simplement les lire et chacun pourra les prendre avec lui à la maison et y réfléchir. Dans 1 Pierre chapitre 1, je voudrais lire quelques versets. 1 Pierre chapitre 1, à partir du verset 2. Et qui sont élus selon la préscience de Dieu, le Père, par la sanctification de l'Esprit, pour être obéissants et pour participer à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. 1 Pierre 1, verset 2. Ici, nous est décrite la troupe qui a été élue avant la fondation du monde afin de participer à ce que Dieu a préparé pour les siens. Le verset 2 vers la fin, par la sanctification de l'Esprit et pour être obéissant. Et c'est de cela qu'il s'agit. Comme Paul l'a écrit à l'Église, dans Romains 1, verset 5, pour amener en son nom à l'obéissance de la foi à tous les païens.
La foi qui vient de la prédication va de pair avec l'obéissance et l'obéissance avec la foi. En devenant ceux qui pratiquent la parole et pas seulement des auditeurs. Car celui qui écoute uniquement et ne met pas en pratique ressemble à un homme qui prend le miroir, s'y regarde, voit comment il est, puis s'en va et oublie aussitôt ce qu'il a vu. Jacques, chapitre 1, verset 24. Il ne devrait pas être ainsi. Ça ne doit pas être ainsi. Ça doit changer. Aujourd'hui, nous regardons ensemble, moi pour ma part et toi pour la tienne. Et chacun regarde dans son propre miroir et qu'il ne voit pas l'autre. Que l'homme ne regarde pas sa femme, la femme ne regarde pas l'homme. Que les parents ne regardent pas les enfants et les enfants pas les parents. Chacun regarde dans le miroir. Que chacun se voit lui-même et prenne devant Dieu ce qu'il y a à prendre et puisse dire, Seigneur, je veux prendre ma place devant toi, comme tu l'as ordonné dans ta parole. Donne-moi la force de pouvoir mettre ta parole en pratique. Si nous le faisons tous, la bénédiction de Dieu se répandra très, très bientôt, dans une grande mesure. Et nous verrons la gloire de Dieu. L'ordre divin, ne l'oublions pas, qui doit être rétabli avant le retour de Jésus-Christ, est absolument nécessaire dans l'Église. Dans l'Église. Et si, par grâce, nous nous comptons comme une infime partie de l'Église universelle, ou l'Église tout entière de Dieu, alors nous voulons donner raison à Dieu et à sa parole et simplement nous soumettre à tout ce que dit les Saintes Écritures. J'ai encore lu aujourd'hui le passage où il est écrit que les femmes âgées doivent exhorter les jeunes femmes à aimer leur mari ainsi de suite. Tite 2, versets 3 et 5. Et je me suis dit, si aujourd'hui une sœur âgée venait vers une jeune sœur et qu'elle disait quelque chose, dites-moi, que se passerait-il? Oui, soyons honnêtes. Que se passerait-il? Mais c'est ce qui est écrit dans la Bible. Nous devons prendre la peine de lire la parole de Dieu et l'appliquer personnellement à nous-mêmes. Ne pas seulement lire en pensant à d'autres, mais la lire en l'appliquant à nous-mêmes, afin que la parole puisse nous interpeller, afin que nous puissions nous laisser remettre en ordre et corriger par la parole et être réellement unis à Dieu de cette manière, ou unis à Dieu comme il faut. Il y a cette prédication de Frère Branham qui parle de la jonction des temps et des signes. Hein? Nous sommes réellement au temps de la jonction à tous les niveaux où les choses s'unissent, se joignent. Politiquement, économiquement, religieusement, tout se joint, tout s'unit. La terre entière est secouée de part et d'autre. Les peuples ne sont plus ce qu'ils étaient il y a 10 ans. Tout est ébranlé. Pourquoi? Cela a un sens et un but. Prenons par exemple Europe. L'Europe, lorsqu'il est écrit que tous adoreront cet homme qui détient le pouvoir religieux et politique, même si les gens ne le voient pas, lorsqu'il est écrit dans Apocalypse 13, verset 8, que tous les habitants de la terre l'adoreront, alors c'est vrai. Et lorsqu'il est écrit qu'il lui a été donné le pouvoir sur toutes les tribus, sur tous les peuples, sur toutes les langues, sur toutes les nations, alors c'est également vrai. Est-ce vrai ou pas? Je vais vous le lire. J'ai l'impression de voir certains visages incrédules et cela ne me plaît pas, car la parole de Dieu
demeure la parole de Dieu. Et voici ce qui est écrit dans Apocalypse 13, versets 7 et 8. Apocalypse 13, versets 7 et 8. Verset 7. Et il lui est donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné l'autorité sur toute tribu, sur tout peuple, sur toute langue et toute nation. Verset 8. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Amen. Ce dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Je pourrais maintenant vous lire les passages des Saintes Écritures qui nous disent que notre Seigneur sera roi sur toute la terre, que la domination. Permettez-moi de lire rapidement seulement deux passages. Apocalypse chapitre 11, verset 15. Apocalypse 11, verset 15. Le septième ange sonna de la trompette. Il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il règnera au siècle des siècles. » Nous pourrions lire, oui, un grand nombre de passages bibliques disant que le Seigneur sera roi sur toute la terre. Le meilleur passage de l'Ancien Testament sur ce thème se trouve dans Zacharie au chapitre 9. Zacharie chapitre 9, où il est écrit que le Seigneur... Est-ce que j'ai bien dit Zacharie 9? Non, je pense que c'est Zacharie 14, verset 9. Pardonnez. Zacharie 14, verset 9. Le Seigneur sera roi de toute la terre. En ce jour-là, le Seigneur sera le seul Seigneur et son nom sera le seul nom. Mais avant que Christ, notre Seigneur, soit roi sur toutes les langues, sur tous les peuples, sur toutes les nations, l'Antichrist prendra sa place ici sur la terre. Lui qui se fera célébrer comme l'autorité suprême sur cette terre. Je l'ai moi-même lu, relu. Cela est écrit dans les livres. Les historiens l'ont rapporté. L'homme du Vatican, c'est écrit noir sur blanc. La juridiction pour tous les peuples, et pour tous les présidents, et pour tous les gouvernements. Oui, cette juridiction, c'est le Vatican. Il est l'autorité suprême, le juge suprême sur tous les peuples, sur tous les royaumes, sur tous les présidents. C'est la prétention qu'il a maintenant, aujourd'hui. Mais Christ est l'héritier légitime de toute la terre. Lorsqu'il posera son pied sur la terre et sur la mer et qu'il rugira comme un lion, tout lui sera soumis. Il règnera comme roi. Mais cet homme doit maintenant jouer ce rôle afin que tous ceux dont le nom ne sont pas trouvés dans le livre de vie de l'agneau immolé, qu'ils puissent tomber dans le piège, lui rendre hommage ou l'honorer et approuver cette affaire. Comprenez-vous pourquoi nous sommes particulièrement reconnaissants pour le frère Branham et son ministère? Nous sommes particulièrement reconnaissants à Dieu d'avoir eu dans notre génération un prophète auquel la révélation qui était restée cachée, révélation des mystères, que cette révélation ait été révélée par grâce. Quelque part, j'ai entendu que Billy Graham se prépare à effectuer une quatrième visite chez le pape. Bien-aimés, nous voyons où mènent tous ces chemins. Il y a un Dieu dans les cieux qui a un peuple sur la terre, un peuple qui écoute et respecte sa parole, qui se laisse instruire et mettre en ordre selon Dieu et qui entend et reconnaît le commandement de l'heure sans le prendre à la légère et peut-être dire, oui, Dieu nous a donné un glorieux message. Qui est nous? Quel message t'a-t-il donné, toi, personnellement, sur ta route? À quoi dois-tu veiller? À quoi dois-je veiller? À quoi devons-nous veiller? Dans chacun de ces domaines et ainsi de suite. Qu'est-ce qui nous concerne, toi, moi? Et qu'est-ce qui concerne l'Église dans son ensemble? Comprenons-nous cela? Il ne s'agit pas simplement d'un message général qui passe à côté de chacun à gauche et à droite, mais d'un message qui inclut tout le peuple de Dieu dans la vie, dans la foi, dans la doctrine, dans tout. Aucun domaine, comme le compositeur de Cantique l'a chanté, afin qu'aucun domaine ne puisse se soustraire de ton influence, afin que Dieu puisse être tout en tous. Pour conclure, à quoi me sert, à quoi nous sert, virait de voir clairement toute l'évolution générale. À quoi cela nous servirait si nous ne permettions pas à Dieu de mettre toutes choses en ordre en nous? Et si chacun, dans la tâche que Dieu lui a confiée, si chacun ne trouvait pas sa place et ne trouvait pas intérieurement le repos devant Dieu, ne pas passer au-dessus de la parole, et puis y entrer et se parler à soi-même, nous regarder nous-mêmes dans les miroirs de la parole, puis dire, « Seigneur, fais-moi grâce et donne-moi la force d'être ce que tu veux faire de moi. » Les enfants auront leur relation avec leurs parents, les parents auront leur relation avec leurs enfants. Pour autant que cela dépende de nous, nous ne pouvons pas parler à la place des autres. Si une femme veut rester incrédule, Paul écrit dans 1 Corinthiens chapitre 7, alors l'homme n'est pas coupable. Si l'homme veut rester incroyant, qu'est-ce que la femme peut faire pour cela? Ici, chacun doit prendre sa place devant Dieu pour lui-même. Ce que les autres font, c'est leur affaire. Prends-toi, toi, prends ta position et ta place devant le Seigneur. Et alors, nous aurons tous fait un bon pas en avant et certainement, la bénédiction de Dieu reposera sur nous tous. Et ce que nous avons déjà dit au commencement, en ce qui concerne Israël et l'évolution générale, tout se produit comme cela a été annoncé d'avance dans la parole. Peut-être une remarque concernant les événements récents en Yougoslavie, bien que nous n'avons rien à voir avec la politique, mais ce sont précisément les deux provinces catholiques romaines qui s'élèvent, appelons-les ainsi, c'est elles qui s'élèvent. Et celui qui connaît bien l'histoire sait qu'en avril 1941, 2 millions de Serbes vivaient en Croatie. Et savez-vous ce qui s'est passé? Officiellement, 500 000 ont été assassinés en avril 1941, mais pas par l'armée allemande, mais par les Croates qui sont catholiques romains, les Ustachis. Vous pouvez les lire dans le magasin Spiegel, qui est en Allemagne. Vous pouvez le retrouver partout dans les documents. Lors de ma dernière visite, encore le vieux père de notre frère Momo Petrovic m'a dit en Yougoslavie, « Monsieur Frank, ce n'était pas 600 000 personnes, c'était 800 000 Serbes qui ont été assassinés par les Croates. » Les uns étaient grecs orthodoxes, ils furent massacrés et les autres se tenaient sous le même toit que l'évêque Stepinek. N'avez-vous pas vu les photos? Lors de l'entrée des troupes allemandes, l'évêque avait la croix devant, vêtu de blanc, et à droite et à gauche, tout le clergé marchait en tête, la croix levée bien haut. Et l'armée venait ensuite. Je lis naturellement beaucoup. Pendant tous mes vols, j'ai vu toutes les illustrations. J'en ai apporté une aujourd'hui. Hitler sur cette page du magasin Spiegel qui est en Allemagne. Et à la dernière page, dans la dernière, le dernier numéro de la même de la semaine dernière. Lorsqu'on lit cela, on comprend ce qui est en train de se passer. Il ne s'agit pas seulement d'une Europe unie, il s'agit d'une Europe catholique romaine unie. Et celui qui ne comprend pas ça est aveugle. Je lis trois phrases de ce qui est écrit ici dans le magazine, dans l'article Spiegel de la semaine dernière, à la page 120. L'article Spiegel, qui est un journal ici en Allemagne. Les intellectuels slovènes et croates ont récemment insisté avec force sur leur appartenance à l'espace culturel d'Europe centrale. Cela a été immédiatement interprété en Serbie comme le désir d'établir un bastion catholique contre la Serbie orthodoxe. Tout le monde sait que l'ensemble de la population serbe est grecque orthodoxe. La Slovénie et la Croatie sont catholiques romains. Et à cette époque, 250 000 personnes se sont converties au catholicisme et le reste fut massacré. Et aujourd'hui, la minorité est persécutée. Mais écoutez ce qui est encore écrit. L'intellectuel slovène avait déjà mis en garde il y a 3 ans dans une conférence contre une Europe centrale catholique. Même les politiciens, même les gens qui écrivent ici simplement d'un point de vue humain, ils savent ce qui se prépare et ils savent également qui se trouve derrière tout cela. Vous savez, si je n'avais pas dû prêcher, alors je serais aussi entré en politique. Cela m'a simplement préoccupé et ces événements me touchent déjà depuis longtemps. On voit tout très, très clairement. Et c'est pourquoi l'appel. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, selon 2 Corinthiens 6, verset 17. Maintenant, nous voyons la grande unité sous le Vatican à travers le Conseil mondial œcuménique des Églises et à travers les différentes institutions, mais un seul reste le chef suprême, et nous savons bien qui c'est. Mais l'Église de Jésus-Christ n'a pas de chef qui se trouve quelque part sur la terre. L'Église de Jésus-Christ ne connaît qu'un seul chef, et c'est Jésus-Christ, notre Seigneur et Rédempteur. La politique actuelle est tellement imprégnée de religion que les jésuites et les Opus Dei, les deux grandes composantes de l'Église romaine, se trouvent aujourd'hui partout, dans toutes les positions clés. Pourquoi je dis cela? Je dis cela tout simplement pour nous donner la clarté sur ce qui se passe maintenant. C'est la résurrection de l'Empire romain tel que Daniel l'a vu. Le dernier empire mondial se forme sous nos yeux. Et tous les peuples doivent être secoués de part et d'autre. Ils cherchent justement à se rapprocher de ce grand empire auquel tous devront finalement se soumettre. Mais nous, nous appartenons au royaume de Dieu. Nous sommes, comme autrefois les trois hommes ou comme Daniel, nous sommes encore dans ce monde, mais nous n'appartenons pas à ce monde. À cette époque, ils étaient dans la captivité babylonienne. Nous sommes encore ici, mais plus pour longtemps. Que Dieu soit remercié, plus pour longtemps. Lorsque le monde entier acclamera cet homme, et que le monde entier s'écriera « paix, paix », et que l'on se réjouira, et qu'Israël sera également inclus, alors nous, en tant qu'Église, oui, cela se produira à peu près au même moment. La reconnaissance d'Israël et l'enlèvement de l'Église
se produiront à peu près au même moment, car alors, conformément au prophète Daniel, le ministère des deux prophètes ou des deux témoins, Apocalypse 11, devra encore avoir lieu. Mais aujourd'hui, nous ne voulons pas aller plus en profondeur dans ces choses doctrinales. Pour ma part, je suis heureux que Dieu nous ait ouvert les yeux, que nous vivons dans une époque où le Seigneur nous a parlé et a révélé sa parole, afin que nous ne nous contentions pas de jubiler là où tout le monde jubile, de danser là où tout le monde danse, mais si c'était le jubilé ou la danse autour d'un veau d'or, nous présentons devant Dieu pour entendre sa parole et nous conformer à elle. Mais nous pouvons aussi, par grâce, juger toutes ces choses et l'évolution générale qui prend maintenant forme sous nos yeux. Réfléchissez un peu. Une Union soviétique qui était exclue, un huitième est récemment venu s'ajouter aux sept. Peu. Oui, à la fin, tout à la fin, encore être inclus. Il peut à la fin encore être inclus, afin que le grand empire russe, avec tout ce qu'il représente, soit lui aussi intégré à ce dernier. Et celui qui a l'argent a le pouvoir. Les sept plus grands ouvriront encore largement la bouche et ils diront ce que le faux prophète leur dictera, car tout à la fin, plus aucun homme politique ne saura vraiment ce qui se passe. Ils dépendront de ce qui viendra de là-bas. Cela conduira jusqu'à dans Apocalypse 16, où de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète sortiront trois esprits impurs, semblables à des grenouilles, et ce seront des esprits des démons. L'Esprit de Dieu nous exhorte aujourd'hui à prendre au sérieux le temps et l'heure, ainsi que l'évolution qui est déjà si avancée, et que chacun puisse porter ses chaussures et ne pas retirer ses chaussures parce qu'ils font mal, mais qu'il remédie au mal et marche devant Dieu. Voulons-nous aujourd'hui, chacun personnellement, nous demander, Seigneur, qu'avais-tu à me dire aujourd'hui? Et voulons-nous aussi promettre à Dieu, avec son aide, de faire ce qu'il exige de nous et de prendre notre place? Il nous aidera à le faire. Il nous bénira. Car regardez, si l'évolution générale est déjà tellement avancée, à quel point le retour du Seigneur pourrait-il être proche? Puisse également cette journée contribuer à ce que nous soyons rapprochés du Seigneur et que sa bénédiction et sa paix puissent par grâce reposer sur nous tous. Amen.